L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour Marie-Claude Siakezak.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Un nouveau rendez-vous pour l'Afrique, toujours cette Afrique vue de votre place Marie-Claude. Nous l'avons dit il y a quelques émissions précédentes, vous avez voyagé dans ce pays du Burkina Faso, vous y êtes allée en tant que psychothérapeute, entre autres, et là vous avez pu voir ces enfants des rues que nous avons évoqués la semaine dernière, les petits-enfants. Et puis, nous allons aborder aujourd'hui la question de la femme. Oui. Cette femme africaine, évidemment, on ne peut pas faire de généralité, mais vous avez aussi eu un regard sur ces femmes au Burkina Faso.
Tout à fait. Alors, je dois dire qu'effectivement, j'ai voyagé, mais surtout, j'ai séjourné, j'ai vécu, et j'ai vécu beaucoup là-bas avec les familles. J'ai vécu la vie de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. J'ai eu la chance, voilà, d'avoir des gens avec qui je pouvais partager, des femmes avec qui je pouvais partager. D'ailleurs, mon association Maya aide, entre autres, deux associations qui, d'ailleurs, s'occupent de filles, de femmes et d'enfants. Et donc, j'ai eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est quand même c'est intéressant d'en parler, c'est essentiel pour moi même parce qu'on a une vision un petit peu tronquée de la femme. Soit on la voit, effectivement, c'est quand même quelqu'un, je pense aux Mama Benz là, qui sont des commerçantes, qui ont souvent des grosses Mercedes, des Merco comme ils disent, c'est pour ça qu'on dit Benz, qui sont des grosses commerçantes. Et c'est vrai que chez la femme, il y a presque phallique. Il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi la vision après de la femme esclave, etc., etc. Et je pense qu'on peut voir les deux extrêmes, et quelquefois peut-être que les extrêmes se rejoignent chez la femme, en tout cas chez les femmes que j'ai pu fréquenter. J'ai bien ressenti souvent les deux aspects, hein, de cette espèce de force. Alors, j'ai choisi de vous donner une définition de Thomas Sankara, hein, qui a été le président du Burkina Faso, qui était un grand féministe avant l'heure, hein, qui a vraiment fait des discours, et notamment des discours le 8 mars, il faisait toujours des discours extraordinaires. Et je vais vous lire juste quelques petits passages où il résume assez bien la vision, ce que nous vivons quand nous vivons là-bas, ce que nous voyons, ce que nous ressentons et ce que nous constatons. Alors lui, il dit que d'abord, il dit que la femme, le sort de la femme à travers le monde entier, parce que c'était quand même quelqu'un qui était aussi mondialiste, hein, un petit peu, le sort de la femme est essentiel. Et donc, particulièrement au Burkina, il dit qu'elle est le pilier du bien-être familial. Elle est accoucheuse, laveuse, balayeuse, cuisinière, messagère, matrone, cultivatrice, guérisseuse, maraîchère, pileuse, vendeuse, ouvrière. Elle est une force de travail à l'outil désuet, cumulant des centaines de milliers d'heures pour des rendements désespérants. C'est vrai, et donc, vous voyez déjà, il y a un beau résumé de ce qu'est une femme, de ce que ça représente dans ce pays. Et donc, il dit, nos mères nous donnent la vie, nos femmes mettent au monde nos enfants, les nourrissent à leur sein, les élèvent et en font des êtres responsables. Donc, on a évoqué ça déjà précédemment, hein, la place essentielle de la femme, surtout dans les toutes premières années, les tout premiers mois et toutes premières années de vie. Et il concluait en disant, j'entends le vacarme de ce silence des femmes, je pressens le grondement de leur bourrasque, je sens la furie de leur révolte. J'attends et espère l'irruption féconde de la révolution dont elles traduiront la force et la rigoureuse justesse sorties de leurs entrailles d'opprimés. Et moi, je conclurai en disant que, du coup, ayant lu ces discours, entre autres, et puis connaissant le pays, dans les événements de 2014 qui ont chassé donc, le président resté bien, bien trop longtemps à la présidence donc, du Burkina Faso, je dois dire que quand deux jours avant, j'ai appris que les femmes sortaient étaient dans la rue, et avec leur pilon, parce que le pilon, la femme là-bas, il y a essentiellement du mil, et la femme toute petite apprend à piler le mil, C'est une de ses responsabilités. Et quand j'ai su que les femmes au Burkina défilaient avec le pilon, je me suis dit, aïe, 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 là, il va se passer quelque chose. Et 48 heures, ça n'a pas loupé. Le chef de l'État a dû fuir et depuis, il n'est toujours pas rentré au pays. Pour dire quand même vraiment cette force qu'il y a chez ces femmes, qui est exacerbée par ce sort qu'elles ont, par le fait qu'elles sont vraiment maintenues avec des rôles terribles. Et en même temps, elles ont cette force nourricière qui se transcende et qui se perpétue, c'est-à-dire qu'elles ont cette grosse responsabilité de l'enfant, du nourrisson, mais en même temps, elles ont, quand dans une famille il n'y a plus de quoi manger, c'est toujours la femme qui va chercher la ressource. C'est toujours la femme. Alors, en ville, ben, elles font des beignets. Il y avait une petite dame là où j'habitais à un moment qui venait tous les matins. On ne se comprenait pas. Elle parlait Dioula et moi français, mais c'était pareil. On se parlait. Elle avait son bébé au dos. Et elle allait au coin de l'avenue vendre ses petits beignets, etc. Elles font un petit peu de maraîchage pour vendre, etc. etc. Et l'enfant, toute petite déjà, elle doit servir, elle doit être utile. Enfin, elle apprend ça déjà. Autant le petit garçon, lui peut aller jouer et tout ça, autant elle, déjà toute petite, elle apprend même à se mettre le pagne sur le dos, elle apprend à tresser, elle apprend à piler, elle apprend à allumer le feu. Et très très jeune, on disait l'autre fois qu'il y avait une autonomie chez les enfants et chez les filles dans les milieux traditionnels et peut-être plus pauvres aussi, et surtout plus pauvres. La femme, elle est vraiment, elle est polyvalente et on ne peut pas s'en passer, quoi. Elle ne peut pas s'en passer. Et d'ailleurs, on voit bien après dans les phénomènes, après, par rapport au VIH et tout ça, aux grandes... Et actuellement aussi, d'ailleurs, par rapport même, on n'en parle pas, on n'aura pas le temps, mais par rapport au terrorisme et tout ça, hein, on voit bien que quand ils doivent fuir et tout, il y a toujours la femme et les enfants qui sont là, qui sont là vraiment et qui sont encore les gardiennes de la sécurité, de la survie de leur enfant, quoi. Donc, pour dire cette grande force, hein, Guylaine ?
Absolument.
De nos sœurs.
je ne peux que consentir à tout cela.
De nos sœurs africaines. Voilà.
Il me semble qu'on peut écouter un peu de Cora.
Ben oui.
Choisi
ouais.
par
Allez.
Vos soins.
Allez, toujours pareil.
Alors, toujours Diabaté.
Toujours Diabaté. Bon, je n'ai pas changé. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, deux fois, je dis ça ne fait rien. Toumani Diabaté et Balaké Sissoko, donc, qui font leur récital de duo de Cora. Voilà. À tout à l'heure.
L'Afrique dans tous ses états, sur le son de la Cora avec Marie-Claude Siakezak, on aborde aujourd'hui la question de la femme, la polyvalence de la femme. Vous nous avez, c'est vrai, lu un extrait d'un discours de Thomas Sankara qui était là et qui avait conscience de cette force-là de la femme dans son pays.
Oui, Sankara était un féministe enragé, je dirais, et très, très avant-gardiste, hein, puisque, c'était à l'époque, c'était quand même dans les années 80, 86, 87, c'était quand même un précurseur. Et puis, en plus, pour bien avoir connu ses parents, je dois dire que maman Sankara, j'y parle avec beaucoup d'émotion là, c'était quand même une dame vraiment adorable, très modeste, vraiment, mais qui elle-même, d'ailleurs, aller au marché faire son petit, pour vendre sa petite, ses petits produits de jardin, etc., pour arrondir les fins de mois de la famille, parce que la famille Sankara n'était pas une famille riche. Voilà, contrairement à ce que certains peut-être ont pu croire après, c'est ce qui est quand même... c'était une erreur d'avoir pensé ça.
Alors peut-être un sujet plus polémique que vous vouliez aborder.
Voilà.
Enfin, peut-être n'allez-vous pas voir le côté polémique ou peut-être... En tout cas, ça peut faire polémique en France.
Ça fait polémique.
Ça fait polémique, la femme et l'excision.
Voilà, alors... C'est vrai que ce phénomène-là, alors, en plus, c'est un problème double, puisque donc Sankara, à l'époque, qui était féministe, avait fait promulguer une loi contre l'excision, qui punit l'excision. Elle existe toujours, bien sûr, cette loi. Et d'ailleurs, j'ai appris par un ami malien que, visiblement, c'est tout récent. Il y a aussi une mesure qui a été prise au Mali, parce que le Mali, jusque-là, n'avait pas légiféré. Et donc, normalement, c'est puni par la loi, mais c'est quand même une pratique encore très, très répandue. Et souvent, c'est en cachette, quoi. On voit bien, même en France, il y a beaucoup, c'est beaucoup de Maliens aussi, c'était une pratique qui se perdurait là-bas, mais au Burkina aussi. On voit alors, évidemment, c'est dans l'exigence masculine, puisque la femme doit être excisée, la fille doit être excisée, pour accéder vraiment à une maturité, à être digne d'être épousée, d'enfanter, etc. Mais ce sont les femmes, ce sont les matrones d'ailleurs, c'est des femmes, les exciseuses sont des femmes, des vieilles. Et si, pour ceux que ça intéresse, donc je veux recommander un film que j'avais trouvé extraordinaire. J'aurais bien aimé qu'on puisse le repasser un jour avec un débat à cet effet dans un de nos cinémas d'art et d'essai là, qui sont bien sympas, à Montpellier. C'est un film qui a été fait par Sambène Ousmane, qui malheureusement nous a quittés. C'est un cinéaste sénégalais et ça s'appelle Mouladé. Alors, Mouladé, M-2-O-L-A-D-E. Le Mouladé, c'est une... Alors, je ne dirais pas exactement ce que ça veut dire traduit comme ça, littéralement. Mais en fait, c'est une mesure que peut prendre, et notamment une femme, dans une concession. Alors là, le film se passe dans un village, donc c'est une case. Et elle place un fil... autour de la concession familiale, de l'aire d'habitation familiale, pour interdire qu'on vienne chercher sa fille pour l'exciser, entre autres, pour protéger son enfant. Et donc ce film est assez exemplaire, il est très 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 bien fait, il est très émouvant, il pose les bonnes questions, il montre bien aussi la pression, justement, pour comprendre ce phénomène, la pression que subit ce mari qui est un mari aimant et finalement évolué, puisqu'il accepte que sa femme fasse un mouladé pour pas que leur fille soit excisée, puisqu'elle est absolument contre. Et il faut voir les pressions qu'il subit au village par les autres hommes, etc. Mais comment tu peux accepter ça? Mais tu es rien. Enfin, vraiment, les humiliations, tout ça. Donc, la pression. Et il se trouve que dans l'histoire, ce sont trois petites filles, des petites jeunes filles, quoi, des à peine pubères, qui se réfugient justement dans cette case, dans cette maison, parce qu'elles savent que la dame est contre l'excision et elles doivent être excisées et elles ne le veulent pas. Donc elle les recueille et elle interdit à quiconque de pénétrer. Mais on voit aussi la perfidie à un moment, puisqu'il y a une scène où à un moment l'exciseuse vient avec la mère, un peu le soir, un petit peu quand il n'y a pas trop de monde, et qu'elle appelle sa fille en lui disant « viens, viens, viens », etc. Et la gamine, elle finit par craquer et par sortir. Voilà, mais les autres sont protégés. Donc ce film est vraiment remarquable, Mouladé, hein, de Sabine Doucement. Et en plus, en sachant que je crois que ça se passe au Mali d'ailleurs, et en sachant que l'actrice principale, qui est une femme magnifique, qui joue le rôle de la mère, et a été elle-même, paraît-il, excisée, et a été d'ailleurs, elle a eu des complications, et comme justement beaucoup de ces femmes-là, quand elles ont des complications, soit elles ont des problèmes de stérilité, soit elles ont vraiment des éventrations, enfin il paraît qu'elle est très très marquée physiquement. Et voilà, évidemment, on ne le voit pas là, mais donc on comprend bien pourquoi elle a été d'autant plus vraiment investie, et comment elle est remarquable dans ce rôle-là, d'une mère qui refuse l'excision de sa fille.
Finalement, voilà. Une tradition transmise, une tradition de souffrance transmise par les femmes elles-mêmes.
Oui,
si ces femmes arrêtaient cette transmission-là.
Et alors, ça fait très longtemps, j'avais regardé un documentaire justement là-dessus. C'est là où j'avais compris que nos colères féministes, etc., à côté, c'était un peu, il fallait un peu mettre un petit peu la pédale douce, parce que ils en parlaient, on montrait justement des scènes d'excision, c'est assez horrible, hein, et il y avait des sages-femmes, je crois que c'était des Sénégalaises, qui disaient, mais laissez-nous, les femmes, nous emparer du problème, et c'est à nous peu à peu de faire passer la tradition. Et c'est là où je m'étais dit, bon, respectons. Je crois que j'étais même pas, quand j'avais vu ça il y a longtemps, je ne sais même pas si j'étais encore venue au Burkina ou en Afrique, non, je ne pense pas. Et je m'étais dit, mais quand même, vraiment. Et donc, il y a des combats qui sont faits, il y a des lois qui sont de plus en plus. Donc, j'étais ravie d'apprendre que c'était aussi passé au Mali, parce que moi, j'en étais restée, et il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Et il y a des lois. Et peu à peu, alors la loi étant que de toute façon, bien sûr, il y a des transgressions, mais comme pour tout pays et pour toutes les lois. Mais en même temps, là, il y a deux ou trois ans, il y a une exciseuse, une vieille exciseuse qui avait été condamnée 5-6 fois, je crois, ou 7 fois, et qui a été mise en prison carrément au Burkina Faso. Parce que justement, maintenant, il y a une loi qui permet de punir. Alors, on sait beaucoup. Oui, vous vouliez dire quelque chose ?
Je me disais que c'était une question d'éducation aussi, finalement.
Tout à fait, c'est ce qu'elles
une
disent.
Elles tradition disent que c'est, comportée voilà. par ignorance, par manque
voilà,
d'éducation.
Exactement, éducation, comme si... voilà. Et l'impression que sinon, on n'est pas une femme, etc. Remarquez, nous, on a aussi nos exigences. Hein. Des fois, pour avoir l'air d'une femme, les petites, maintenant, qu'est-ce qu'elles font pas ? Mais bon, quand même, là, c'est une mutilation.
Mutilation
c'est quand même
corporelle.
Très, très dur. Ouais. En sachant quand même que même la circoncision des garçons, c'est pas non plus une partie de plaisir, contrairement à ce qu'on dit surtout dans les rituels hein, initiatiques dans les villages là-bas, etc. Et alors, pour parler justement de cette pratique-là, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, et on est allé voir les anciens, etc. Parce que, et en fait, on n'a pas eu de réponse valable. On dit que ça se perd dans la nuit des temps, cette tradition. On ne sait pas vraiment. Alors, les questions religieuses, eh ben, en fait, aucune religion ne prescrit l'excision. Par contre, quand les colons sont arrivés, quand on a évangélisé les gens là-bas, ou que l'islam est arrivé, etc., aucun religieux ne l'a interdit, peut-être justement pour ne pas blesser, pour ne pas se mettre à mal avec les populations qu'on souhaitait gagner à la cause religieuse. Mais... c'est vrai qu'après aussi, il y a des croyances hein, aussi, des craintes. On disait qu'une femme excisée ne pouvait pas avoir d'enfant, que l'absence d'excision favorise l'infidélité, ça on peut... voilà. Et puis moi, j'avais lu après, c'était vraiment quelque chose de très archaïque, très ancien, dans les traditions, enfin dans les croyances anciennes, que aussi, on considérait que le prépuce du garçon était un vestige de la féminité, puisque le fœtus est androgyne, hein, et que le clitoris de la fille était justement quelque part un vestige de la verge de l'enfant. Donc c'était une façon d'enlever chez chacun. Alors ça, c'était aussi pareil, une croyance très ancienne, mais après tout se perd complètement dans les traditions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore vivace, même si ça diminue de plus en plus, et que de plus en plus de pays s'en emparent, et qu'il y a de plus en plus de corps d'accord entre les pays pour, entre autres, pour cette chose-là, comme pour le bien-être des enfants, comme pour la santé des enfants, voilà, l'identité des enfants, etc. Et l'UNICEF appuie beaucoup ces causes-là. C'est vrai que l'UNICEF est très présent là-bas, dans tous ces pays, et qui appuie les causes de l'enfance, et notamment pour les enfants fantômes, entre autres. Moi, je me suis trouvée dans une campagne UNICEF quand j'y étais là-bas, contre la mortalité périnatale, qui est quand même assez catastrophique encore, hein, la mort des mères ou des enfants au moment de l'accouchement ou près de l'accouchement. Et voilà, donc il y a tout ça qui fait que... Mais il y a des militances, mais il y a encore... C'est encore très, très... Et puis, comme c'est très rural, en plus, la ruralité, elle maintient beaucoup voilà, les gens dans les croyances anciennes.
Oui, cette explication de l'excision que vous venez de donner, finalement, rejoint la question de l'identité. Tu es
tout
une femme, je t'enlève tout ce qui pourrait
voilà.
rappeler,
absolument.
Peut-être archaïquement, comme vous dites, une trace de notre sexualité, ou en tout cas d'une marque qui serait différente. Et on parlait dans une émission précédente de l'identité, de la non-identité d'enfant.
Tout
cette question d'identité, elle revient finalement. Vous voyez comment vous...
Oui.
La cohérence de votre organisation.
Mon Dieu, mais Guylaine, c'est merveilleux. Guylaine, elle souligne les choses. Oh là là, quel beau miroir, Mireille. Mais Guylaine, miroir, mon beau miroir. Donc c'est super.
Mais ces explications archaïques ont l'air, c'est vrai, d'être effacées, de ne plus exister en proprement. On retient la souffrance. Mm-hmm. En effet, c'est de notre... Je pense que c'est de notre... pouvoir d'éradiquer cette souffrance-là. Mais quand on comprend que peut-être c'est une question d'identité derrière, on comprend peut-être mieux cette façon de faire perdurer une tradition envers et contre tout.
Tout à fait, tout à fait. Ça fait voilà, ça fait partie des transmissions de la nuit des temps qui ont fondé l'identité, la particularité, la culture, enfin tout ce qui est vraiment fort. Parce que ce continent, on l'a déjà dit, quand on arrive sur ce continent, il y a une espèce de force qu'on ressent physiquement aussi, hein, je crois que
oui.
D'ailleurs. Et en effet, alors ce sont aussi les gardiens de nos traditions très anciennes de la vie, les Africains. Et en même temps, on voit bien comment il y a, c'est difficile aussi, mais en même temps... Enfin, moi, en tant que psychologue, clinicienne, mais aussi intéressée à la sociologie, je dirais que quelque part, l'humain, quand il se défait de certains pans de son historique, de son passé, ou de ses traditions et de ses mythes, il en reproduit d'autres d'une autre façon. Mais ça, ce serait un autre sujet. Mais c'est l'Afrique, quand même, qui m'a donné toutes ces réflexions, malgré tout.
Qui m'a
beaucoup enrichi, en tout cas. Voilà. Et est-ce que je peux vous donner juste une citation ? J'ai le temps encore ?
Ah ben vous avez le temps, là. Vous avez le temps.
D'accord, ok. Je voulais donner une citation d'une poétesse africaine, c'est Mariama Ba. Ba, c'est un nom peul, tiens, moi qui aime bien les peuls aussi. Et qui dit « On est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour illuminer les ténèbres. On est mère pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit. Quand le tonnerre viole la terre. Quand la boue enlise. On est mère pour aimer sans commencement ni fin. » Et moi, je pense qu'effectivement, la femme africaine, elle incarne bien ça, avec toutes ces souffrances qu'elle doit endurer. Alors, on pourrait parler, il y a le mariage forcé, il y en a encore plus qu'on ne croit, et même en ville, enfin, moi, j'ai vu des choses comme ça, qui rend une tristesse infinie. Il y a, et puis il y a cette éducation qui vient de très très loin, où la femme, elle est là juste pour mettre en valeur l'homme. Et ça, ce que disait Thomas Sankara, c'est que ça leur est inculqué depuis la toute petite enfance. Hein. Vous allez dans une famille, vous allez voir la petite fille, elle va commencer à être employée à plein de tâches ménagères, nourricières, etc. Pendant que le garçon, il court, il va aller à la chasse au barbouillard, il va jouer avec les copains, il va grimper dans les branches, il va se fabriquer un arc, etc. etc.
Et de donc, nombreuses femmes dans d'autres sociétés le diraient aussi, je
tout
pense.
Tout à fait, tout à fait. Elles le diraient aussi, oui, oui. Tout à fait.
On termine en musique.
Alors justement, pour illustrer ce que vous venez de dire, j'ai choisi...
Vous voyez, ça communique à fond.
J'ai choisi une chanson écrite par Daniel Balavoine, qui me bouleverse toujours autant, et qui s'appelle « Pour la femme veuve qui s'éveille ». Et si vous allez sur YouTube, vous avez une superbe vidéo où vous verrez que c'est un hommage à toutes les femmes. Alors vous savez qu'il est allé malheureusement mourir dans le ciel africain, mais qu'il aimait beaucoup l'Afrique, mais c'est dédié à toutes les femmes et toutes les veuves qui s'éveillent, qui sont tellement en charge. Donc, Daniel Balavoine pour la femme veuve qui s'éveille. Voilà.
Merci Marie-Claude.
Merci Guylaine.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Steady down, steady down, steady down.